Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vivons des périodes troubles, rythmées entre dégâts économiques, écologiques et crises migratoires. Du moins, selon l'information propagée par les médias de masse. Et ce dernier sujet est un de ceux qui ont fait le plus couler d'encre ces derniers mois. D'une part, la crise des réfugiés, et d'autre part, la place que ceux-ci pourraient, devraient avoir dans notre société. Les avis divergent, souvent soit absolument contre, soit quelque peu « je ne suis qu'amour », sans réel contraste malheureusement. Celui de Kamel Daoud, dans sa tribune du journal Le Monde de ce 5 février, est celui-ci. On voit dans le réfugié son statut, pas sa culture. On voit le survivant, et on oublie que le réfugié vient d'un piège culturel qui se résume à son rapport à Dieu et à la femme. Mesdames et messieurs, dans les minutes qui vont suivre, je tenterai de vous convaincre de ce qui est selon moi non seulement une confusion totale, mais de surcroît un danger de taille pour nos principes démocratiques. La chose qui, d'emblée, est marquante est la pugnacité des termes. Le piège culturel, le rapport, comprenez, unique, à Dieu et à la femme. Et puis, particularité frappante, bien que banalisée, ce « on », cet article impersonnel qui renverrait une conscience générale à une sorte de doxa normée et instituée par la majorité, et de ce fait légitimée. Il me semble ensuite que des éclaircissements de langage sont indispensables pour bien cerner la problématique. Presque chaque jour, nous sommes bombardés, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, de ces mots. Réfugiés, immigrés, étrangers. Et au final, on pourrait presque croire qu'ils ont tous la même signification. Or, juridiquement, un réfugié est quelqu'un qui a dû fuir son pays pour cause de danger. Selon Kamel Daoud, ce serait cela qui éclipserait sa culture et son piège culturel. Sa culture. Donc, si je comprends bien ce que veut dire M. Daoud, en dehors de l'Europe et peut-être des États-Unis, il n'y aurait qu'une seule culture, et forcément mauvaise, du simple fait que ce ne soit pas la nôtre. Il est clair qu'entre un Malien et un Syrien, il n'y a aucune différence, pas même culturelle. Enfin, tout dépend de l'observateur. Et puis, quelle est la signification revêtue par ce piège culturel? Du fait que, comme disait Aragon, parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles, ils seraient automatiquement tous des barbares? Y a-t-il un piège culturel à ce point machiavélique? Qui se résumerait à la conception du divin et du féminin. Car dans ce piège, et en montrant une vision qui détruit sa soi-disant unicité, n'y a-t-il pas aussi des merveilles? Pour ne parler que de la civilisation arabo-musulmane, dont un nombre conséquent de réfugiés sont issus, et que l'on tente délibérément de réduire aux terroristes se faisant exploser sur les places publiques, ne trouve-t-on pas simplement aussi les chiffres arabes, qui sont la base de bien des raisonnements et qui ont permis, entre autres, l'informatique. N'y trouve-t-on pas aussi, et ce, dès le XVe siècle, des commentaires d'Aristote qui postulent la théorie physique des cordes? Et cela, si l'on en croit Monsieur Daoud, est un piège culturel. Et il découlerait d'une vision unique de Dieu et de la femme. Sans m'étendre longuement sur l'erreur historique d'un tel postulat, il est tout de même bon de rappeler que nous, les Occidentaux civilisés, avons mené guerre sainte et croisade au nom de notre Dieu. Qu'en Belgique, les femmes n'ont eu l'accès au droit de vote qu'en 1948, qui est pourtant l'élément premier de la démocratie. Mais il y a nous, peuple fier, cultivé, qui avons, sous prétexte d'apporter la civilisation, massacrés sans la moindre honte des peuplades entières. Et puis, pour parler de Dieu, de leur Dieu. La cinquième sourate du Coran ne dit-elle pas explicitement « Tout homme qui tue un homme tue l'humanité, tout homme qui sauve un homme sauve l'humanité entière ». Bien sûr, on pourra me rétorquer que d'autres passages légitiment la guerre sainte, le meurtre, et qui sait, que je sois peut-être en train de faire l'apologie du terrorisme. Eh bien, à cela, je répondrai que dans des textes fondateurs de notre démocratie, de notre société, principalement la Bible, et plus particulièrement le Lévitique, se trouvent des textes qui légitiment, cautionnent, voire encouragent même, les tortures, les mutilations et parfois le meurtre, et ce principalement pour des femmes qui ont péché. Et que non, jamais je n'accepterai, jamais je ne tolérerai le meurtre, quelle que soit la prétendue cause, je placerai toujours la vie humaine comme valeur première. Mais visiblement, quand un groupe de terroristes tue plus d'une centaine de personnes dans une capitale européenne, on décrète la guerre, l'état d'urgence et on renforce l'appareil policier. À l'inverse, quand l'Arabie Saoudite déclare que les droits de l'homme sont une entrave à l'économie de marché, là tout le monde, hormis quelques marginaux, trouve cela normal. D'une part parce que, géographiquement, ce n'est pas tout près. D'autre part, car, économiquement, ils sont des alliés dont nos gouvernements ne sauraient se passer. Et c'est quand le dominant décide la vérité qu'elle devient unique et universelle. J'aimerais maintenant éclairer les possibles retombées de cette déclaration. Je reviens sur ce fameux « on » qui est au final le reflet de l'idéologie, qui est fondatrice de notre vision du monde. Comme le souligne Guy Debord, le spectacle, donc l'idéologie, se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société, et comme instrument d'unification de celle-ci. Il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Le regard abusé et la fausse conscience ne serait-il pas la réduction de l'islam au djihadisme, des réfugiés aux terroristes, tant fanatiques que sexistes? Et cette vision n'est-elle pas parfois appuyée par l'État? Quand Yann Yambon se permet de dire que la meilleure manière pour résoudre la crise migratoire, ce serait de remettre les réfugiés à la mer. N'y a-t-il pas là, justement, un piège culturel? Il est bien sûr légitimé par sa fonction, par son écho médiatique, mais il est pourtant présent et de taille. Et puis, cette crise des réfugiés, avec laquelle on nous bassine tant, quelle est sa véracité? Au vu des chiffres, bien que certains politiciens clament haut et fort que nous accueillons toute la misère du monde, j'ai bien peur que la réalité soit tout autre. L'Europe n'accueille que 2% des réfugiés. Une bagatelle. Et cela est encore trop. Selon Gramsci, la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt, et que le nouveau ne peut naître. Pendant cet interrègne, on observe alors des phénomènes morbides des plus variés. Alors que l'Europe, le vieux continent, subit des mutations démographiques pesantes, on en vient à revoquer ce pourquoi elle existe. Ces derniers mois, combien de pays ont menacé, voire clairement rompu, avec l'accord Schengen et la garantie de circulation intra-européenne? Et une contradiction est rarement soulevée. Mais parallèlement à cela, ils négocient des traités de libre-échange économique qui facilitent la circulation des capitaux. On permet au capital de circuler, mais pas à l'humain. Et oui, ces jours-ci, ces mois-ci, combien de réfugiés, tentant désespérément de fuir la guerre, la famine ou la dictature, ont perdu la vie. J'aimerais revenir un court instant sur l'image de la femme. Bien entendu, nombre de femmes à travers le monde vivent des calvaires sans commune mesure. Certes, ici, leur situation est plus enviable. Toutefois, notre société occidentale, qui a soi-disant une si belle culture, une idée si soucieuse de l'égalité, continue à objectiviser la femme. Que ce soit par la publicité, ou pour vendre un produit alimentaire, on dégrade l'image de la femme. Que ce soit dans une idée de beauté absolue, où plus d'une femme consomme des produits illuminant la santé pour atteindre cet idéal. Certes, leur sort est meilleur que dans d'autres contrées du monde, mais en rien leur situation n'est ni parfaite, ni égalitaire. Mesdames et messieurs, j'ai tenté de vous démontrer le danger et la facilité de ce genre de propos. Mais bien qu'il faille combattre ces mensonges, ils font aussi faire un constat. Quel que soit neutre, leur peu importe statut juridique, ce sont avant tout des êtres humains. Et en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est de notre devoir d'accueillir les gens qui, au final, sont bien plus en danger qu'ils ne sont dangereux. Je vous remercie.
Donc c'est la question d'improvisation. Que pensez-vous de cette interrogation ? Le chômeur, un éternel suspect.
Le chômeur, un éternel suspect. J'aimerais tout d'abord revenir sur cette idéalisation non seulement du travail, mais de la réussite que prône cette société. Il faut avant tout, peu importe les sentiments et la vie relationnelle, avoir une belle voiture, une belle maison et partir 3 fois en vacances par année. Évidemment, dans le sens où le chômeur n'a pas forcément ses possibilités, n'a pas cet habitus social au final, il devient suspect. Il devient cette espèce de trace sur ce magnifique tableau qu'on essaye de construire. Mais ne sommes-nous pas avant tout dans une société du spectacle, comme le souligne Guy Debord, où on tente avant tout de paraître avant d'être ? En ce sens-là, oui, le chômeur est suspect. Et pourtant, le chômeur n'est jamais au final que celui qui a eu moins de chance que celui qui était avant sur la liste. Je vous remercie.